études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, toi Jésus.
Bien-aimés en Christ, nous sommes ravis de vous retrouver à cette heure-ci sur cette antenne pour vous faire découvrir les paroles d'un merveilleux chant. Je suis très content de savoir que vous avez passé une semaine agréable, ou du moins nous sommes très contents de savoir que vous avez passé une semaine agréable. Et aujourd'hui, nous allons vous conduire à la découverte d'un chant merveilleux. Ces paroles nous amènent à revisiter la croix, notamment ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix, en ce lieu. Alors, si vous êtes prêts, écoutons ensemble le chant intitulé « Homme de douleur ».
Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé.
chant que nous allons étudier cet après-midi dans cette émission est composé de 4 couplets et d'un refrain. Je vous donne lecture des paroles du couplet ou des couplets. Le premier couplet nous dit ceci. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Le second couplet, venu du ciel sur la terre, pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Le troisième couplet, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Le quatrième couplet, la pierre a été roulée, oh, vois le tombeau vide, alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Le refrain revient, le refrain dit ceci, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, alléluia, gloire et honneur à toi seul.
Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé.
Chers auditeurs, nous allons passer à l'étude de cette chanson que nous vous proposons et que vous écoutez d'ailleurs en fond sonore. Et nous allons nous tourner vers l'autre Laurent. L'autre Laurent, bonjour.
Oui, bonjour Louis.
J'espère qu'on a passé une très bonne semaine.
Oui.
Très bien. Très bien. On va y aller. Alors, l'autre Laurent, qui est l'auteur de ce chant?
Bon, le chant est l'œuvre de Matt Crocker et Brooke Ligerhood. Ces deux personnes. Matt Crocker est un conducteur de louanges, auteur-compositeur reconnu pour avoir cofondé le groupe Hillsong United et créé des chansons pour ce groupe. Il a toujours été intéressé par la musique et a commencé à jouer de la batterie lorsqu'il était enfant. Il a commencé à écrire de la musique pour le ministère de la jeunesse. Son épouse s'appelle Brianna Crocker et ils ont une fille nommée Saxon. Donc, notons que l'artiste gospel Joel Houston, membre de Hillsong United, est celui qui a encouragé Matt Crocker à commencer à composer. Mais deuxième personne donc dans l'œuvre que nous sommes en train d'étudier, Brooke Gabriel Fraser Ligerhood, plus connu sous le nom de Brooke Fraser, elle est auteure, compositrice, interprète néo-zélandaise, née le 15 décembre 1983, elle a à son actif 3 albums qui ont connu de grands succès en Nouvelle-Zélande ainsi qu'en Australie, dont le troisième l'a fait connaître dans le monde grâce au titre Something in the Water. Elle est membre du groupe chrétien australien Hillsong Worship.
Très bien.
Et alors, il faut dire que le groupe Hillsong, au début, était très accroché, comme cette chanson que nous venons d'écouter.
Oui.
Mais à la suite de temps, lorsqu'ils ont commencé par introduire des éléments...
pas compromettre, on peut dire ça comme ça.
Oui. Actuellement, le groupe, le nom est toujours là, mais
la spiritualité n'a plus de ça
Ça frise un peu le New Age, quelque chose comme ça.
Ok, hein. J'ai voulu juste poser la question quand tu as commencé pas parler de ça. Voilà. Donc on est dans le même esprit. Très bien. L'autre Laurent et chers auditeurs également, nous allons dès à présent étudier la chanson. Pas à pas. Donc, comme tu l'as dit, hit song, ça veut dire que la chanson est en anglais. C'est en anglais. Et nous allons faire écouter dans les minutes qui suivent ou bien au cours de l'émission, on va faire écouter à nos auditeurs la version anglaise de cette chanson. Et vous verrez, comme d'habitude, qu'il y a une variation aussi énorme entre l'original et le français. Il y a eu des adaptations en français. Mais bien avant d'en arriver là, l'autre Laurent, on va entamer le premier couplet, et je te laisse écouter juste le premier couplet, et après on passera aux commentaires. Là, on est en version française, Homme de douleur, que je vous laisse écouter.
Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé.
Voilà, nous venons d'écouter le premier couplet en français. L'autre, Laurent, avec ta permission, je vais faire écouter également l'anglais, c'est pas mieux, pour qu'on puisse faire un commentaire équilibré. Et on va y aller avec la version anglaise. Là, c'est, le titre, c'est Man of Sorrows, c'est ça, hein? J'espère que j'ai bien prononcé. Oui. D'accord, on y va avec la version anglaise. Écoutez ensemble le premier couplet. Pose la question alors l'autre Laurent, là voici la question. L'autre Laurent, je constate que dans la première strophe, le compositeur fait mention de Jésus. Alors, qui est-il pour lui, autant pour moi?
Ça dépend de la version que tu considères.
Oui.
En considérant la version française, pour lui... Le Seigneur est qualifié d'abord d'homme de douleur. Et pourquoi? Parce que toute notre rédemption, l'histoire de notre rédemption commence par ce que Christ ce qui lui est arrivé. Et d'après les prophéties bibliques, le Messie, dans sa vocation, a été dépeint comme homme de douleur. Et quand on lit les Écritures, là, dans 1 Pierre chapitre 1, il est dit ceci, « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Alors ce texte-là nous explique la confusion et le fait que les prophètes, quand ils ont reçu la révélation de ce qui allait arriver à Christ, parce que cet esprit, l'esprit de Christ en eux, leur faisait entrevoir. C'est comme ils avaient un aperçu expérimental de ce qui allait arriver à Christ. Et ils ont voulu savoir. Il y a deux aspects. L'aspect de la souffrance de Christ et ensuite de la gloire qui suivrait la rédemption que Christ a apportée. Donc ici, quand vous lisez les Écritures, là, l'un des prophètes qui a le plus touché ce domaine, c'est celui c'est le prophète Ésaïe. Ésaïe 52, verset 14, il va dire, « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Donc là, ça s'est dépeint un peu les coups qu'il a reçus, parce que là, les soldats romains sont connus à l'époque pour une cruauté inhumaine. On lui a arraché la barbe et on lui donnait des coups au visage, tout ce qu'il faut pour le mettre à mal physiquement. Et il faut aussi souligner que ce que ces hommes faisaient en ce moment-là n'était pas juste ce qu'ils avaient l'habitude de faire aux personnes appelées à être crucifiées. Mais ici, c'est sous l'instigation des esprits des ténèbres qui voulaient
finir avec Jésus.
Voilà, donc c'était pas des hommes dans leur état normal qui faisaient ces choses-là. Dans Ésaïe 53, il est dit, il s'est levé devant lui, verset 2, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Là, ce texte se rapproche de celui que je viens de lire, qui nous donne une idée de ce qui lui était arrivé. Il était abandonné, il était méprisé, il était mis au banc de la société, un laissé pour compte, et celui sur qui l'on pouvait envoyer la malédiction et tout ce que l'on pouvait avoir comme idée en le jugeant comme étant digne de ce qui lui arrivait. Donc tu vois, quand on considère le test, l'auteur a compris ce que Christ a fait pour lui. Dans le test original de la chanson, il était question de l'homme de douleur, c'est vrai, mais de l'agneau de Dieu.
Oui.
Alors qu'en français,
on a parlé de
fils de Dieu.
Oui.
L'agneau de Dieu cadre mieux avec les textes bibliques, parce qu'en ce moment-là, c'est en tant qu'agneau de Dieu qu'il est en train de prendre le péché du monde. Et quand Jean-Baptiste avait prophétisé au Jourdain en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », pour un homme naturel, un juif ordinaire, ça ne veut pas dire grand chose. Mais il voyait, parce que l'Esprit de Christ est en lui aussi. Et il savait que cet homme-là, ce juif, n'est pas juste un homme comme les autres, mais il va connaître une mort atroce. Et cette mort-là sera pour
la rédemption du peuple d'Israël, mais par ricochet, la rédemption du monde. Et là, dans le texte, en anglais, il est dit « Silence as he stood accused ».
Oui, j'ai voulu revenir à ce point. Faussement accusé. Il a gardé le silence.
Il a gardé le silence.
Qu'on l'accusait.
Oui.
Ça, c'est ça qui est intéressant ici. Et il présente Jésus sous cet angle-là.
Oui.
Alors que nous, aujourd'hui, il nous est vraiment difficile d'accepter les accusations.
Oh,
nous sommes prêts à réagir, nous sommes prêts à nous défendre. On veut
ça
avoir
dépend
toujours
de l'évangile que nous avons écouté.
Ah bon?
Ah bien sûr, parce que pourquoi les apôtres subissaient des outrages et la Bible dit même qu'ils se réjouissaient d'avoir pris part aux outrages de Christ. Pourquoi?
Okay.
C'est à cause du message qu'on leur a présenté. Quel message on nous présente aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on devient chrétien, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on est devenu? À quoi devons-nous être exposés? Est-ce qu'on nous dit ça aujourd'hui? Non, on nous dit autre chose.
Okay.
C'est pour cela que nous réagissons souvent dans la chair lorsque nous faisons face à des déconvenues, à des choses que notre personne ne peut pas supporter. Et c'est là où on va chercher des versets un peu partout pour commencer à maudire les gens et faire des choses. Non.
Okay.
Quand tu lis le Nouveau Testament, tu vois la réaction des apôtres face à des critiques, à des injures, à certaines de ces choses-là. Leur réaction est différente de notre réaction. Et leur réaction s'apparente aussi à la réaction du Seigneur lui-même. Tu vois, quand dans l'original, il est dit qu'il était silencieux devant ceux qui l'accusaient, eh bien, ça, là, quand on lit les Écritures, on sait que cela se rapporte à Ésaïe 53. C'est exactement ce qui est dit dans Ésaïe 53, parce que il n'a point ouvert la bouche, il était juste là, il regardait les gens. Tout ce qu'on lui faisait, il n'essayait pas de se défendre. D'accord? Il n'essayait pas de se défendre. Et là, ça oh, Seigneur. Donc, dans Ésaïe 53, il a dit, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple.
C'est ça.
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Tu vois, quand on analyse ces choses, on se rend compte que c'est comme nous, on est juste entré dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, notre génération surtout. Et on peut comprendre aisément pourquoi notre adoration, le don que nous faisons de nos personnes à Christ souffre de profondeur. Oui.
Très bien.
Quand quelqu'un entrevoit, ne serait-ce en une fraction de seconde, ce qu'a valu le salut qu'il a obtenu là, ce que ça a coûté à Christ, vous verrez cette personne là quand elle vous dit que Dieu l'a appelé au ministère, vous verrez que la personne sera prête à tout par amour pour le Seigneur. Ces genres de personnes sont prêts à se dépenser et à dépenser leur énergie pour le salut des âmes. Observez aujourd'hui là, quand les gens vous ont des titres, ils font des choses, le christianisme que nous avons aujourd'hui, quand on analyse, on se dit, on est en train de faire autre chose. Hein? Quand tu prends ceux qui ont voix au chapitre, qu'est-ce qui nous motive quand nous prêchons l'évangile? Et quel évangile nous prêchons? Et quand nous le prêchons, cet évangile-là, est-ce que ça apporte les résultats que les gens... Quand tu vois un peu partout ces hommes qui font face à beaucoup de défis juste parce qu'ils veulent que les gens naissent de nouveau, est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose c'est ce qui nous motive? C'est la question qu'il faut se poser.
D'accord. Quand tu parlais tout à l'heure, ça m'a rappelé le cas de Pierre, hein, lorsqu'on était venu arrêter Jésus, je crois dans le jardin d'Éden, non, dans le jardin de Gethsémané, pas d'Éden, et que et Pierre a enlevé l'épée, il a coupé l'oreille.
Réactionnaire.
Oui, et puis Jésus dit non, remets ton épée à sa place. Remets l'épée à ta place. Oui. C'est-à-dire, il était dans l'optique là de ne pas se défendre.
Oui.
Il était prêt à subir, à aller jusqu'au bout.
Voilà. Le même Pierre, après qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, quand on l'a arrêté et on l'a fouetté, il n'était plus réactionnaire. Tu vois un peu, tu as vu, c'est la même personne. Hein? Mais quand l'Esprit a commencé son œuvre en lui, tu as vu,
Il a laissé tomber
Jean l'épée. Qui voulait invoquer le feu sur les Samaritains,
qui
et Jésus de les réprimer. Et de leur dire, vous le savez de quel esprit vous êtes exprimé. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à ceux qui font, ces choses-là, ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés.
Oui.
Parce que l'image qu'ils présentent du christianisme-là, cette image, elle est fausse. Le même Jean a été fouetté.
Après.
Oui.
Après le baptême du Saint-Esprit.
Oui, mais est-ce qu'il a envoyé le feu sur le Sanhédrin?
Non, il n'a plus envoyé le feu.
Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené ce changement-là? Et maintenant, quand vous prenez ces personnages bibliques-là, vous les mettez à côté et vous nous mettez aussi à côté. Et vous allez voir la différence nette et votre conclusion, si vous êtes honnête, c'est de dire il y a un autre esprit à l'œuvre. Ce n'est pas l'esprit qu'on a dans le Nouveau Testament.
Très bien. Ok, on va y aller avec le refrain et on écoute la chanson jusqu'à la partie refrain.
Homme de tout le Fils de Dieu, trahis par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé.
J'aime bien les paroles du refrain, car elles paraissent très solennelles. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oui, dans le refrain, ici, l'autre Laurent, pour l'auteur, la croix est sa rédemption. Peut-on avoir une autre considération de la croix? Je m'explique, je vais mieux m'expliquer. Aujourd'hui, pour certains, la croix représente ce symbole-là qu'on met au cou. Qu'on se met au cou.
Le crucifix.
Oui, pour se promener. Et pour d'autres, ça devient un objet d'adoration. Mais pour lui, pour l'auteur, pour le compositeur, il dit, « Oh, cette croix, ma rédemption. » Ce n'est pas un lieu d'adoration. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas le crucifix. Mais c'est plutôt un lieu pour lui où il a obtenu le salut. Peut-on avoir, l'autre Laurent, une autre considération de la croix?
Oui, la croix, bon, c'est maintenant, pendant que tu en parles, que je considérant le texte même, le texte original, que je me rends compte, voilà. Moi, j'ai dit que la croix, en fait, c'est le lieu où la colère de Dieu s'est apaisée.
Oui.
Et là où la justice de Dieu a été satisfaite.
Oui.
À travers l'unique et ultime sacrifice de Jésus, le Christ, l'agneau de Dieu, qui s'est donné en sacrifice en faveur des hommes qui ne le méritaient pas.
Exactement, oui.
D'accord.
Oui.
Et là, quand l'auteur parle de rédemption, en fait, le concept de la rédemption, du rachat, est tellement étendu. Ça va du pardon des péchés, de la réconciliation avec Dieu, de la purification, de la justification, de la sanctification, de l'adoption, de l'immortalité de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, de l'héritage divin que nous avons, de la participation à la nature divine, du baptême dans le Saint-Esprit et de feu. Tout ceci, c'est sur la base de ce que Christ a fait à la croix. C'est tellement vaste. C'est tellement vaste. L'œuvre que, les conséquences de cette œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et donc, dans le Nouveau Testament, les premiers disciples avaient, disons, une meilleure idée de la chose que nous autres aujourd'hui. Quand tu parles de port, de crucifix ou autre, c'était pour les Romains et pour les autres, c'était l'emblème de l'humiliation, d'accord, l'emblème de la malédiction de quelqu'un, voilà. Et c'est comme dans une famille, hein. Peut-être que dans la famille, le papa est décédé des suites d'une crise d'épilepsie avec tu vois, l'état dans le haut, il est tombé dans le feu, tout ça là. Vous n'allez pas photographier votre père dans cet état et le mettre dans votre maison pour qu'on se souvienne. Non, non, non. Vous voyez un peu. Donc là, si on voit la chose sous cet angle, aujourd'hui, quand c'est dans la religion qu'on fait ces choses, qu'on met un crucifix au cou, ce n'est pas de cela qu'il est question ici.
Il y en a même qui le mettent dans leur voiture.
Sous prétexte que c'est ça qui protège.
Qui protège d'accord.
Tout ça là, quand on le fait, c'est la religion. Parce que la protection que nous avons vient de Dieu. Ce n'est pas les artifices humains là, des choses qu'on aurait accrochées, quelque chose qu'on aurait mis ici. C'est pas ça qui nous protège. Et c'est là où les gens sont tombés dans autre chose que le christianisme. La protection que nous recevons de Dieu vient de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix.
Exactement.
Ce n'est pas parce que j'ai mis quelque chose que je suis protégé. Non. Ça nous ramène vers le fétichisme ou les religions tu vois un peu. Mais la réalité même est en Jésus-Christ. Dès que vous déplacez ne serait-ce qu'un peu le centre et que vous le mettez sur des objets, vous êtes tombé dans le même travers que ceux que vous avez quittés autrefois en disant que non, ils sont idolâtres, ils sont ceci, parce que vous fixez votre attention non plus sur la personne de Christ, mais sur des artefacts, sur des objets qu'on met ici et là, qu'on porte fiévreusement et frénétiquement. Non, quand on fait ces choses, c'est la preuve qu'on ne comprend pas, on n'a pas compris. Les apôtres en leur temps, est-ce qu'ils n'avaient pas des artistes pour leur fabriquer des crucifixes? Pourquoi ils n'en portaient pas? D'accord? Les apôtres, en leur temps, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient dessiner je ne sais quoi là et qui vont mettre autour de leur cou, autour de leurs mains, de leurs manches, tout ça là. Pourquoi ils n'en faisaient pas? Parce qu'ils savaient que ce n'était pas ça. Mais nous, on le fait aujourd'hui et les gens sont prêts à défendre ces aberrations-là. Mais quand on lit le Nouveau Testament, ou même vous prenez la Bible, Dieu est venu sur la montagne. Il a dit au peuple d'Israël, vous avez entendu une voix, vous n'avez vu personne. Je ne vous permets pas de me représenter. C'est ce que Dieu a dit au peuple d'Israël. Jésus vient et nous dit, Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit, en vérité, qui nous donne le droit de passer outre ce que Jésus a dit et de représenter. Tu vois, quand on vous dit c'est une forme d'idolâtrie moderne et modernisée, certains, parce qu'il y a, de l'argent dedans. On fait ces choses-là parce qu'on veut vendre, on veut faire du marketing avec le nom et la personne de Jésus, et c'est pour cela qu'on fait ça. Mais quand tu prends le Nouveau Testament, tu lis, tu te dis, mais d'où est-ce que ces choses sont venues? Qui inspire ça? Quel esprit inspire ça? Le seul esprit qui nous contrôle sous la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit. Et son rôle est de nous donner de prendre conscience de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qui Jésus est pour nous, et de nous diriger par la parole. Maintenant, tout ce que nous ferons et dirons, et qui contredit la parole de Dieu, et qui est contraire à la nature de Christ, cette chose-là ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Alors si ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui inspire ça doit être un autre esprit, et ce n'est pas l'Esprit du Dieu vivant. Donc, tu vois, ici, dans ce que tu as posé comme question, les gens pouvaient faire ça au Moyen-Âge, et on pouvait comprendre, parce qu'au Moyen-Âge, c'était l'époque de l'obscurantisme, où le catholicisme roumain avait, il y avait tellement de choses, que c'est ça même qui avait poussé certains à se révolter, à se dire, mais si c'est ça, Dieu, là, on préfère autre chose, avec le siècle des Lumières et autres. Mais aujourd'hui, là, au 21e siècle, on comprend, vous avez, à l'époque, les gens n'avaient pas accès aux Écritures. Ils n'avaient pas accès. Et donc, c'est ce qu'on leur disait qu'ils faisaient. Aujourd'hui, vous avez votre Bible avec vous, et quelqu'un veut se servir de votre crédulité, ou bien, je ne sais pas, et tirer profit de votre naïveté, parce que vous pensez que ce que la personne dit vient de Dieu, est inspiré de Dieu, même si la chose manifestement contredit la parole de Dieu. Tu vois, de la justification, dès qu'on est justifié devant Dieu, qu'est-ce que nous faisons? La croix de Christ, là, quand on en parle, la croix va maintenant opérer une œuvre intérieure dans le racheté. La croix commence maintenant à opérer une œuvre où sera maintenant une lutte entre notre nature charnelle, la nature déchue, et l'esprit régénéré en nous. Et là, il nous revient à nous de nous soumettre à la direction de l'esprit. C'est en ce moment alors que le racheté se consacre au Seigneur. Quand nous nous consacrons et que nous devenons la propriété privée de Jésus, en devenant ainsi l'habitation de Dieu en esprit, dès ce moment-là, nous n'acceptons plus ce que la chair nous propose, parce que nous savons que quand je me laisse diriger par la chair, cela déshonore Christ et cela attire plutôt le jugement de Dieu. C'est comme cela que les premiers disciples avaient vécu, et c'est de cette même manière-là qu'ils étaient conscients de l'autorité qu'ils avaient sur le diable.
Très bien.
Et aujourd'hui, beaucoup ne sont pas conscients de ça, et ils sont plus, notre situation, elle est vraiment, vraiment déplorable. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, l'apôtre a dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça, c'est, et il a détruit en le clouant à la croix. Ça, c'est l'aspect de la rédemption. Ça. Maintenant, l'autre volet, c'est quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les premiers disciples savaient que sur la base de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, ils ont autorité sur les démons, sur les anges déchus et tout ça là. Aujourd'hui, les gens sont confus. Quand on dit qu'ils commencent par crier autre là, celui qui est conscient de l'autorité dont il est investi, sa manière de vivre et sa manière de parler diffère. Vous prenez une recrue qui peut-être doit exercer l'autorité quelque part, c'est une autorité exercée avec un peu de soi. Mais vous prenez quoi? Un officier supérieur, et il n'a même pas besoin de... Est-ce qu'il a besoin de crier? Non, il ne crie pas. Il émet juste une affirmation. Donne-moi ça. Fais ceci. Et les gens exécutent sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de l'autorité dont il est investi. Tu vois? Donc, quand on prend ça et on fait une analyse par rapport à notre état actuel, on comprend alors dans quoi on a mis le pied et pourquoi il y a de la confusion partout.
Très bien. On poursuit avec la chanson et on va écouter très bientôt le deuxième couplet.
Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier. Et pardonner ceux qui m'ont crucifié.
En lisant les paroles du deuxième couplet, je comprends que Jésus avait deux objectifs, surtout la version française, hein, il avait deux objectifs essentiels en venant sur cette terre. D'abord, nous réconcilier et pardonner. Et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Voilà, nous réconcilier d'abord et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Alors, l'autre Laurent, quelle leçon doit-on tirer du deuxième objectif, notamment pardonner ceux qui l'ont crucifié?
Comment dire ça? Quand on s'arrête juste à ce niveau, on a comme l'impression que il a juste pardonné les Juifs et puis c'est terminé.
Ouais,
d'accord.
Ouais.
Le texte dit que c'est pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner. Mmh. Et donc, là, pour ce qui concerne le rachat ou la réconciliation, l'apôtre Paul a enseigné là-dessus, et ce qu'il a dit est fondamental dans Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Mmh. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et donc là, quand on lit ce texte-là, c'est clair que une œuvre a été accomplie en notre faveur Et lorsque nous croyons en Dieu, cette œuvre devient une réalité dans nos vies personnelles et individuelles. Le salut est une affaire personnelle. Ensuite, et c'était ça le message que les apôtres véhiculaient. Dans Actes chapitre 10, verset 26, l'apôtre Pierre va dire, verset 43 autant pour moi, l'apôtre Pierre dira, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Le message est clair, et c'est ça l'évangile, c'est pas autre chose. Et c'est pour cela que quand Pierre a dit ça, que l'Esprit est descendu pour œuvrer dans la vie de l'auditoire, parce que c'était ça la bonne nouvelle du royaume qu'il fallait annoncer aux gens, expliquer aux gens pourquoi Jésus est venu, ce qui lui est arrivé à la croix, quelle est sa signification. Et lorsque les gens par la foi acceptent ça, il y a un changement qui se produit dans leur vie. Et quand on est racheté, on a été racheté, premièrement pardonné, on ne va plus vivre dans le péché, n'est-ce pas? Ouais. Pardonné, on ne s'agira plus de dire, ok, Dieu m'a pardonné, et donc on va consciencieusement vivre dans le péché. Non, Hébreux chapitre 10, verset 26 dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc quelqu'un qui, par exemple, étant chrétien, à un moment donné, choisit de retourner dans le monde, de commencer maintenant à s'opposer à Christ, de dire des choses qu'on ne doit pas dire sur le Seigneur. Et cette personne-là, il est dans la posture d'un renégat. Quand on est racheté, qu'est-ce qu'on fait? On demeure fidèle. Et c'est ce que Hébreux, le même texte d'Hébreux nous dira, chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, tu vois la condition? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. D'accord? Salomon vivait par la foi. Mais quand il s'est retiré, l'âme de Dieu n'a pas pris plaisir en lui. D'accord? S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Maintenant, racheté par Christ, réconcilié, quelle est ma responsabilité? Je dois maintenant aider d'autres personnes à être aussi réconciliées avec Dieu. C'est ce que faisaient les premiers disciples. Maintenant, question, tu appliques ce que nous sommes en train de dire à notre vie. Ceux qui disent qu'ils sont sauvés par Jésus, qui dansent pour lui, qui chantent pour lui, est-ce qu'ils arrivent à aider d'autres personnes à se réconcilier avec Christ? Non. La chose maintenant se présente comme une sorte de spectacle où il y a quelqu'un qui est l'acteur principal et les gens viennent voir. Et puis ils s'en vont. Après, ils vont venir voir. Quand quelqu'un est réellement réconcilié avec Dieu, il a en lui le désir de dire à d'autres personnes ce que Jésus a fait pour lui et aider cette personne aussi à se réconcilier. C'est la même chose là que l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ça c'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Chaque disciple de Christ a maintenant le ministère de la réconciliation. Aller aider d'autres personnes à être réconciliées avec Dieu. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est ça le message. C'est pas la parole de la malédiction. Non. Il ne nous a pas dit d'aller maudire les gens. D'accord. C'est la parole de la réconciliation. Les aider à prendre conscience de ce que Jésus a fait pour nous tous et pour eux aussi. Et là, la parole de réconciliation est avec nous et nous les aidons à se réconcilier avec Dieu. C'est de cela qu'il est question. Quand on fait autre chose, ce n'est plus l'évangélisation, c'est autre chose qu'on est en train de faire. Maintenant, là, quand on comprend, l'Écriture nous dit que Dieu... le Seigneur Jésus a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ça veut dire que la vie éternelle maintenant devient possible dès ici-bas quand quelqu'un se réconcilie avec Dieu. Donc là, dans la question que tu as posée par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout à fait clair pour nous qu'il faut revoir nos copies. Il faut retourner aux Écritures pour savoir ce qui se passe, ce qui se passe avec nous. Est-ce que cette chose-là qui nous arrive, ce que nous professons, ce que nous faisons, est-ce que quand nous lisons le Nouveau Testament, est-ce que quand nous lisons les Évangiles, nous lisons les Épîtres et autres, quand on lit là, est-ce que ce que nous faisons est en droite ligne avec les Écritures?
Très bien. C'est une question qui est posée à tout auditeur et chacun va répondre à son niveau. Mm-hmm. Bien, on va rapidement aborder la troisième strophe. Là, dans cette partie de la chanson, je crois que la troisième strophe est la conséquence directe de la précédente.
Oui, bien sûr. Oui. Mm-hmm.
Mais maintenant, comment se fait-il que la vie des chrétiens du 21e siècle, est en porte-à-faux avec cette phrase-là que je retrouve dans le troisième couplet? Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Comment se fait-il que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, le péché est toujours là?
Oui, mais là... On
se bat avec le péché, on lutte avec le péché.
Oui, quand on aborde ce genre de questions, quand nous en parlons, nous ne disons pas que tous ceux qui se sont identifiés à Christ ne vivent pas la réalité de la rédemption. Hein? Non. C'est parce qu'il y a une majorité à qui on a prêché autre chose que l'évangile du royaume qui se trouve dans cette situation-là. Tu vois, si le message est faux, l'esprit de Christ ne produira pas la nouvelle naissance dans la vie de ceux qui écoutent. Et donc, ceux-là, ils n'auront aucune conviction de péché, aucune conviction de pardon obtenu, aucune conviction de réconciliation avec Dieu. Demandez à ces gens-là qui tombent, se relèvent, tout ça. Là. Parce que le message est faux. Le message n'a pas présenté Christ comme étant le rédempteur, mais comme étant quelqu'un qui bénit les gens à tout vent. Tu vas avoir un camion. Oui. Si c'est ça, là, si, le message, c'est faux. Donc, l'Esprit de Dieu ne va pas appuyer un message qui est faux.
Okay.
Maintenant, quand on aura prêché à la personne, le lot du travail est fait par le pasteur, c'est-à-dire celui qui a la charge de ses disciples, de ses nouveaux convertis. Mais là, si le message est faux et que même celui auprès de qui l'on va, lui aussi est dans le faux, alors les gens vont faire des années dans une dénomination donnée, mais quand tu leur parles de Jésus qui délivre de la puissance du péché, pour eux, ils disent, comment ça? Et ils sont honnêtes parce qu'ils
vivent la situation.
Ils ne l'expérimentent pas. Romains chapitre 4 dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ça, c'est un psaume de l'Ancien Testament, c'est David qui l'a dit. Mais l'apôtre Paul l'utilise pour montrer comment est-ce que quand on écoute le vrai message de l'évangile, et qu'on y applique la foi, le changement que ça produit, on a la conviction d'avoir été pardonné. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces gens-là qui ont écouté le vrai message, quand ils se sont repentis, là, ils ont la conviction qu'ils ne sont plus sous la condamnation. Autre élément, Romains chapitre 8, verset 16 maintenant, l'Esprit lui-même rend témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Tu vois? Donc, tu as posé la question, on fait une comparaison, on se rend compte que c'est autre chose. Parce que
c'est le message que nous écoutons qui produit cette vie.
Oui, le message produira le fruit de l'esprit qui est derrière le message. Tu vois, quand le message vient de Dieu, quand c'est la bonne nouvelle du royaume, le message de la croix, l'évangile de la croix, et que les gens croient en cela, ça transforme les vies, c'est des vies transformées. Et quand on parle de vies transformées, fondamentalement, c'est le fait d'avoir été réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas parce que vous alliez à pied avant, maintenant que vous avez reçu Jésus, vous avez un véhicule. Ça, là, c'est la mentalité du pauvre, ça. C'est pas de cela qu'il est question. Il est question ici d'être réconcilié avec son Créateur. Et à partir de là, l'Esprit maintenant te dit, non seulement tu es réconcilié, mais tu es devenu son enfant. Tu vas à la vision, les choses changent.
Ouais.
Si tu sais de qui tu es enfant, il y a des choses que tu ne feras pas. C'est dans ce moment que les gens embrassent la posture des saints. Ils veulent vivre la vie de pureté, de sainteté. Mais quand le message est faux, les gens vont, ça dit que leur objectif sera toujours sur le matériel. Alors qu'en réalité, Jésus a dit, c'est dans le royaume, tout se passe dans le royaume. Ce que tu auras après là, ça c'est juste un bonus que Dieu t'a donné. L'objectif de Jésus, en me sauvant du péché, n'est pas de faire de moi un milliardaire. C'était pas son objectif. C'est le fait que je devienne son petit frère. Si tu es une femme, c'est le fait que tu deviennes sa petite sœur. Ça, tout commence à partir de là. Les apôtres du Nouveau Testament là, ils étaient des milliardaires? Non. Et pourtant, c'était des gens qui étaient conscients qu'ils étaient devenus des enfants de Dieu. Vous voyez là où nous mettons l'accent sur le matériel.
Oui.
Eux, ils savaient que la réalité même est spirituelle.
Mm.
Vous pensez que quelqu'un peut prendre cet évangile-là, qu'on prêche là, vous voyez ces milliardaires, quoi, les gens qui ont des trucs, réseaux sociaux, tout ça là, Jacques Ma, vous prenez Jacques Ma, vous irez vers lui avec votre évangile-là, il lui dit que si tu donnes ta vie à Jésus, et tu vas redevenir... Il va vous rire au nez parce que il est déjà un milliardaire. Vous voyez, mais quand on lui présente l'évangile de la croix, malgré ton argent et tout ce que tu as là, il y a une condamnation sur ta vie, et la seule personne qui peut te sauver de ça, c'est Jésus-Christ. C'est ça l'évangile du royaume. Si on prêche autre chose là, le Saint-Esprit ne pourra pas appuyer ce message parce qu'il est dit dans les derniers temps. Les gens viendront, ils vont faire des miracles mensongers et tout le reste. Vous pensez que tous ceux qui prêchent la prêchent pour que Jésus sauve des vies? Non, les gens prêchent parce qu'ils ont besoin d'argent.
Mmh.
Et quand on en parle, ça les dérange. Bon, pour ceux qui prient contre nous et autres là, vous perdez votre temps, ces gens de prière, Dieu ne les exauce pas. Mais on doit vous dire la vérité et vous aider.
D'accord.
Pour que vous n'amenez pas des gens à s'éloigner de Dieu.
Très bien.
Il faut retourner au Nouveau Testament et dire pourquoi Jésus est mort pour l'humanité. Et quand quelqu'un reçoit cette vie en lui, qu'est-ce qui se produit? Quel est son statut? C'est ce qui est important.
Très bien. L'autre Laurent, on va y aller. On va entamer en même temps le quatrième couplet et on va finir par là. Le quatrième couplet, là, il est fait référence à la résurrection de Christ.
Oui. Mmh.
C'est-à-dire que tout est déjà fait, maintenant, pouvons-nous affirmer avec conviction que nous sommes maintenant plus que vainqueurs? On est maintenant dans le royaume, avec la résurrection de Christ, tout est maintenant donné, le bonus est là, le bonus est là présentement.
Oui, oui, parce que maintenant, là, dans la posture de l'enfant de Dieu, avant sa conversion, il était une victime. Il subissait les situations, les circonstances, et il ne pouvait pas tenir. Mais après la conversion, quand la personne naît de l'esprit, elle devient fils de Dieu, devient fille de Dieu, la personne a la victoire sur le monde. Et quand nous parlons du monde, c'est un système organisé, impie, qui s'oppose à Christ, qui s'oppose à la parole de Dieu, qui refuse que Dieu soit la seule autorité suprême dans ce monde. Donc, quand quelqu'un naît de nouveau, il a maintenant la victoire sur les principes là, derrière ce monde-là. Quand la chose est contraire à la parole de Dieu, cette personne ne va pas se laisser aisément faire. Et c'est comme cela que les apôtres avaient vécu. Dans Jean chapitre 5, là, vous avez là, verset 4, où il est dit, celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, et la personne a la victoire sur les démons, d'accord? La personne a la victoire sur les démons, les puissants des ténèbres. Avant même que Jésus n'aille à la croix, il disait aux disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, on dit quoi? Les gens, ils ont vaincu les démons, ils ont vaincu les puissants des ténèbres à cause du sang de l'agneau. Pourquoi à cause? Parce que Jésus est allé à la croix, il a versé son sang. Ce sang-là les justifie auprès de Dieu. Ces gens vivent dans la sainteté. Et quand l'ennemi vient les accuser, il n'a pas de raison, juridiquement parlant, il n'a pas de raison de dire celui-ci est ceci. Parce que là, Jésus va dire, mais oui, il a fait quoi? Et c'est vrai que ces gens choisissent de vivre dans la pureté. Et donc, quand ces gens prient, les démons savent que celui-ci, il a découvert le secret. D'accord? Donc, la victoire sur le monde, la victoire sur les démons, et la victoire sur la chair. Avant, la chair nous dictait ses lois et nous subissons. Mais quand quelqu'un devient enfant de Dieu, la personne peut mortifier la chair, peut refuser à la chair ses désirs, ses passions et tout ce que les gens font naturellement. C'est là où on vous trouvera étrange. Lorsque les gens vous inviteront à faire le mal et que vous refusez, ils trouvent que vous en faites trop. Que vous voulez vous montrer comme un saint n'y touche, vous voulez montrer que vous êtes saint, plus saint que les autres. Non, c'est pas une question de comparaison, mais c'est parce que vous avez compris que ce que Dieu vous a donné là, vous n'allez pas transiger là-dessus parce que si vous le faites, vous risquez d'être perdant. Adam et Ève l'ont fait et ils ont été perdants. Donc, un véritable enfant de Dieu veille sur sa vie de pureté pour que quoi que ce soit n'arrive à le souiller et à le rendre indigne devant Dieu.
Très bien. Voilà. Tout a été dit sur cette chanson « Homme de douleur » que nous avons commentée. Si le Seigneur tardait à revenir, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre chant et pour d'autres commentaires basés sur les Saintes Écritures. Nous allons vous laisser avec la version anglaise de la chanson « Man of Sorrow » que je vous laisse à présent écouter. Bye bye.
Sorrows of their lives. Now the curse of